Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Devenir végétarien en 90 jours. Je suis Alexandra Balik, la diététicienne nutritionniste du blog. Dans cet épisode, je vais vous parler du soja et de ses produits dérivés. S'il y a bien un aliment intéressant pour le végétarien, c'est le soja. Aujourd'hui, il est consommé sous différentes formes et peut se prêter à diverses préparations. Tofu, tempeh, graines apéritives, boissons végétales, etc. On trouve du soja et des produits dérivés à base de soja dans tous les magasins, que ce soit dans les magasins bio ou en grande surface. Mais que contient-il? Est-ce un légume, un féculent? Quels sont ses apports nutritionnels? Est-il bon pour la santé? Comment le consommer? On vous a dit qu'il contenait des perturbateurs endocriniens. Est-ce vrai? Dans cet article, vous trouverez de nombreuses informations pour mieux connaître le soja et ses produits dérivés. Bonne écoute! Le soja, c'est quoi? Le soja fait partie de la famille des légumineuses. Ce sont des plantes de la famille des papilionacées qui produisent des graines comestibles. Le soja est appelé glycine max, donc ne vous étonnez pas si vous voyez ce terme. De plus, il existe également les graines de soja vert ou appelées haricots mungo. On le consomme souvent sous forme de pousses de soja. Celui-ci est classé dans le groupe des légumes et non des légumineuses. Le soja peut être consommé en graines et également sous différentes formes que nous verrons dans la suite de l'article. Il est également très utilisé en tant que matière première pour l'industrie agroalimentaire. Voyons les apports nutritionnels du soja. Le soja contient des teneurs en protéines très intéressantes, ce qui fait que les produits dérivés comme le tofu ou le tempeh font partie des aliments qui permettent de remplacer la viande et le poisson afin d'avoir un apport en protéines correct. Ce sont des protéines végétales qui seront très bien absorbées. On note toutefois la présence de deux facteurs limitants, la méthionine et la cystéine. Ce sont des acides aminés utiles à la bonne synthèse des protéines dans l'organisme. C'est pour cela qu'il conviendra de consommer un produit céréalier comme du riz, des pâtes, de la semoule au cours du repas pour avoir un apport en protéines de qualité. Il n'y a pas de gluten dans le soja, donc intéressant pour les personnes souffrant de la maladie cœliaque. Les protéines sont indispensables au maintien de la masse musculaire, à la synthèse de nombreuses molécules comme les enzymes digestives, les hormones, les anticorps, indispensables au bon fonctionnement du système immunitaire. Je vais prendre quelques exemples de produits pour que vous sachiez lesquels contiennent le plus de protéines. Les valeurs sont données pour 100 grammes, ce sont les moyennes des produits que l'on peut trouver sur le marché. Donc la graine entière contient 35% de protéines ou encore 35 grammes pour 100 grammes. La sauce soja, 7 grammes. Le tempeh, 18 grammes. Le tofu ferme, 15 grammes. Le tofu lactofermenté, 20 grammes. Le tofu soyeux, 5 grammes. Le yaourt au soja, lui, c'est 5 grammes. Et la boisson au soja, pour 100 ml, on aura 5 grammes de protéines. Voyons maintenant les lipides. Le soja contient une quantité non négligeable de lipides, mais ils sont de nature végétale, donc de grande qualité. On y retrouve des acides gras polyinsaturés, les AGPI, à 80% des oméga 6. On note également la présence de phytostérol. Ce composant est intéressant car il vient en concurrence avec le cholestérol dans les intestins et il limite donc l'absorption du cholestérol. Ceci permet de réguler son taux de cholestérol. Le soja contient des lécitines. Ce terme vous parle peut-être. On le retrouve dans des produits industriels sous le terme lécitine de soja. Il sert d'émulsifiant, c'est-à-dire qu'il permet de bien mélanger les différents ingrédients d'un produit. Je vous invite à lire notre article « Le gras, c'est la vie » sur notre blog « Devenir végétarien en 90 jours » pour en savoir davantage sur les différents acides gras. Concernant les glucides, ce sont des glucides complexes sous forme d'amidon. La quantité n'est pas très élevée. Il y a également une très faible quantité de saccharose. Enfin, tout va dépendre. Certains yaourts au soja peuvent être très riches en sucre, donc en saccharose, tout comme les boissons végétales au soja. Ouvrez l'œil en lisant les étiquettes. Le soja a un index glycémique bas. Je vous invite à lire notre article « Comment avoir des repas avec un index glycémique bas » pour en savoir davantage sur cette notion d'index glycémique qui est très importante. Concernant les fibres, la graine de soja contient des quantités très élevées. Elles sont de nature insoluble. La quantité de fibres variera en fonction du produit dérivé à base de soja. Par exemple, dans les jus ou le tofu, il n'y a pas de fibres. Les fibres participent à la prévention des maladies cardiovasculaires car elles limitent l'absorption du cholestérol au niveau intestinal. on dit qu'elles sont hypocholestérolémiantes. Elles permettent de diminuer le taux de cholestérol. Elles participent également à la prévention du cancer colorectal, la prévention du diabète de type 2. Les fibres sont également satiétogènes, ce qui évite les grignotages. Voyons maintenant les vitamines et minéraux. Le soja est riche en vitamine du groupe B. Attention, par contre, il n'y a pas de vitamine B12. Il contient également des quantités intéressantes de vitamine E et elle a un rôle antioxydant très intéressant. Le soja est riche en magnésium, fer, phosphore et potassium. Les graines sont riches en calcium, 200 mg pour 100 g. Le tempeh un peu moins, 88 mg pour 100 g. Les boissons au soja contiendront du calcium que si elles ont été enrichies, donc il faut bien regarder les étiquettes. Concernant les intérêts nutritionnels du soja, les études scientifiques mettent en avant des propriétés hypocholestérolémiantes, c'est-à-dire qu'il va permettre de diminuer le taux de cholestérol. Le soja contient des flavonoïdes, ce sont des polyphénols comme les isoflavones. Ce sont des molécules antioxydantes qui ont également des effets phytohormonaux. Ils vont mimer l'action des œstrogènes. C'est pour cela que l'on parle souvent de perturbateurs endocriniens. Les isoflavones ont également un effet anti-athérogène, ce qui permet de diminuer le risque de formation de plaques dans les vaisseaux sanguins et donc éviter qu'ils se bouchent. Concernant les isoflavones, toutes les études ne sont pas d'accord. Beaucoup de contradictions. Les effets peuvent différer en fonction de l'âge, des quantités consommées et également de la forme de consommation. C'est pour cela que les recommandations se basent sur le principe de précaution. L'ANSES recommande aux enfants de moins de 3 ans, aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes de limiter la consommation de soja et de produits dérivés à base de soja. Il en est de même pour les personnes ayant un cancer hormonodépendant. Il pourrait également agir sur les fonctions thyroïdiennes, donc déconseillé chez les personnes ayant un dérèglement de la thyroïde. Demandez l'avis à un professionnel de santé, donc un médecin, un diététicien. Il est conseillé de ne pas dépasser un produit contenant du soja par jour. Ceci est un principe de précaution et vous évite de trop vous exposer aux isoflavones et d'en consommer une trop grande quantité. Le soja contient des facteurs antinutritionnels. Ne prenez pas peur avec ce titre. Je vais rapidement m'expliquer avant que vous ne fuyiez. Les facteurs antinutritionnels sont des composés qui vont limiter l'absorption intestinale des nutriments présents dans le soja et qui pourraient être toxiques. Mais de nombreuses techniques existent pour les supprimer ou en diminuer la teneur. Dans le soja, on peut retrouver des inhibiteurs de trypsine. La trypsine est une enzyme qui permet de digérer les protéines. Le fait de l'inhiber entraînera une moins bonne absorption des protéines. Les graines décortiquées en contiennent beaucoup moins. On trouve également des lectines. Ces composés peuvent altérer la muqueuse intestinale. Une cuisson dans l'eau supérieure à 80 degrés va les détruire. Finalement, beaucoup de composés seront détruits par la chaleur. De plus, les techniques de fermentation, germination, décortiquage diminuent aussi les teneurs de ces différents composés. Le soja et les problèmes digestifs. La fermentation va permettre de diminuer les alpha-galactosides responsables de flatulence. Si vous consommez des graines de soja cuites et si vous avez une sensibilité digestive ou si vous souffrez du syndrome de l'intestin irritable, vous risquez d'avoir quelques symptômes digestifs type ballonnement par exemple, car elles contiennent des FODMAPs, fermentable oligo dit monosaccharides and polyol, et plus précisément des galacto-oligosaccharides, les GOS et des fructanes. Le tempeh n'a que de très faibles quantités de FODMAPs, donc cela ne devrait pas poser de problème. Tout comme le tofu ferme. Par contre, le tofu soyeux peut être problématique chez certains car il contient des galacto-oligosaccharides et des fructanes. Voyons les intérêts du soja. Vous l'aurez compris, le soja apporte des quantités très intéressantes de protéines. Selon la forme de consommation, on a des teneurs proches voire plus élevées que la viande ou le poisson. Et un intérêt non négligeable, c'est que ce sont des protéines de qualité économique. Bien que pour certains produits, certaines marques profitent que le soja soit mis sur le devant de la scène pour gonfler les prix. Mais on reste tout de même sur des tarifs inférieurs à de la viande ou du poisson. Regardons sur la prévention des maladies cardiovasculaires. Plusieurs études ont montré que le soja participe à la prévention des maladies cardiovasculaires en diminuant le LDL cholestérol, le mauvais, et en augmentant le HDL cholestérol, dit le bon. C'est grâce au phytostérol présent dans le soja qui entre en compétition avec le cholestérol au niveau intestinal, ce qui permet d'en diminuer son absorption. La prévention des maladies cardiovasculaires est aussi due à la richesse en acides gras insaturés et en isoflavones qui ont un pouvoir antioxydant. Selon des études, les isoflavones favorisent une bonne densité minérale. Cet effet est d'autant plus intéressant à la ménopause avec la chute du taux d'œstrogène. On parle donc d'effet préventif contre l'ostéoporose. Il aurait également un effet préventif sur certains cancers. En effet, des études relèvent un effet préventif des cancers de la prostate et du sein. Mais toutes les études ne vont pas dans ce sens. Cet effet serait dû aux isoflavones. Plusieurs études ont montré l'intérêt de la consommation du soja au moment de la ménopause pour limiter les bouffées de chaleur. Voyons maintenant quelques dérivés du soja. Donc en premier lieu, les produits non fermentés. Donc on va parler de jus de soja ou encore appelé boisson végétale ou tonio. Il est obtenu par trempage, lavage, broyage des graines mélangées à de l'eau puis porté à ébullition et filtré. Cette boisson peut être consommée nature ou légèrement sucrée, aromatisée ou alors additionnée d'amidon, de gélifiant, aromatisée et vendue pour être consommée en dessert. Elle peut être enrichie en calcium. Sur l'étiquette, vous pourrez lire carbonate de calcium, citrate de calcium si ça a été enrichi. Le tofu, il est obtenu par coagulation du jus de soja que l'on égoutte ensuite et que l'on presse. C'est le même principe que la fabrication des fromages. Il existe du tofu ferme et du tofu soyeux. Son goût est plutôt neutre et fade et demandera donc d'être cuisiné associé à des épices en sauce. Par exemple, du tofu légumes, quiche au tofu, galettes aromatisées en salade. Voyons maintenant les produits fermentés. On peut parler du miso. C'est un mélange de soja, sel, céréales comme l'orge et le riz, que l'on fait fermenter avec un champignon, l'aspergillus oryzae. C'est une pâte qui permet de réaliser des bouillons ou des sauces. Le tamari, c'est le jus que l'on récupère de la fermentation du miso. C'est une sauce brune qui se prête à diverses préparations. Elle peut servir pour une marinade. Le tempeh, on fait fermenter une pâte de soja avec un champignon, le Rhizosus oligosporus. Son aspect peut ressembler à du nougat. Le tempeh a un goût plutôt aigre. Le tempeh pourrait être consommé cru, cuit ou en friture. La sauce soja, ou encore appelée shoyu, cette sauce est obtenue par fermentation des graines ou de pâtes cuites de soja auxquelles on peut ajouter du riz, du blé. Ce mélange est placé dans une saumure salée auquel on ajoute un champignon, Aspergillus oryzae, afin de produire la fermentation. C'est une sauce brune qui se prête à diverses préparations. Elle peut servir pour une marinade par exemple. Le natto, ce sont des fèves de soja fermentées avec Bacillus natto et Bacillus subtilis. Enfin, les yaourts au soja, ils sont obtenus en ajoutant des ferments lactiques au jus de soja. On en trouve des natures, des aromatisés et des sucrés. Faites attention aux quantités de sucre qui peuvent être assez importantes en fonction des marques. Quelques caractéristiques. Vous avez peut-être remarqué la saveur caractéristique des sauces soja du tamari. En effet, au cours de la fabrication, la fermentation permet de libérer des acides aminés libres avec notamment l'acide glutamique qui va donner le goût particulier caractéristique des saveurs asiatiques, c'est-à-dire umami. La particularité du tempeh, c'est qu'au cours de la fermentation, le champignon va permettre de produire un peu de vitamine B12, donc très très faible. On est à une hauteur de 0,019 mg pour 100 g. Selon les recommandations de l'ANSES, pour un adulte, on est à 4 microgrammes. Attention aux différentes sauces et aux miso qui sont assez salées. Et d'autres produits dérivés du soja. Enfin, effectivement, il existe de la farine de soja, de l'huile de soja. Le soja peut être aussi utilisé en matière protéique végétale. Vous vous demandez ce que c'est, mais vous en avez peut-être déjà croisé si vous achetez des produits transformés à base de soja. Pour les fabriquer, on utilise des graines de soja que l'on fait tremper dans une solution alcaline pour favoriser l'extraction des protéines. Les protéines ainsi extraites sont récupérées et déshydratées pour obtenir une poudre. Ensuite, les industriels ajouteront de l'eau à cette poudre pour obtenir une pâte qui sera ensuite travaillée pour lui donner la forme souhaitée. Ces matières protéiques végétales, ou encore appelées MPV, permettent aux industriels de fabriquer des substituts de viande très souvent en essayant d'imiter l'aspect de la viande. Le soja est un thème où l'on a énormément de choses à dire, mais je vais m'arrêter sur ces informations. Je pense qu'il serait intéressant pour un futur article de se pencher plus précisément sur les différents produits que l'on trouve en supermarché, déjà préparés à base de soja, comme le tofu par exemple. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous laisser un message sur le blog en commentaire. Et si vous avez également des questions. À bientôt pour un nouveau podcast!